السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères en islam, vous savez que à cette époque, en 2009, dans les années que nous vivons, la pratique de la religion devient de plus en plus complexe. Il est de plus en plus difficile pour un musulman de rester ferme dans la pratique de sa religion. Il est de plus en plus difficile à un jeune musulman au collège, au lycée, à l'université, d'afficher son identité, son appartenance à l'islam. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu nous avait rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر رواه الترمذي. Viendra une époque où rester ferme dans la pratique de sa religion sera aussi difficile que de tenir dans sa main une braise, c'est-à-dire un charbon ardent. Et Abu Huraira radiallahu anhu avait rapporté un hadith connu, très connu, dans lequel le prophète sallam avait dit: بدأ الإسلام غريبا, que cette religion, elle a commencé et elle était perçue par les gens comme étant quelque chose d'étrange, d'inadapté, d'impossible, d'inconcevable. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا. Et viendra une époque où de nouveau, les gens considéreront l'islam et considéreront les personnes qui pratiquent l'islam comme étant des gens en décalage, inadaptés à la société, des personnes étranges. Et le prophète m'a dit: فَطُوبَا فَطُوبَ لِلْغُرَبَى. Le prophète m'a annoncé la bonne nouvelle à ces personnes étranges qui restent attachées à leur dîn, même quand le monde entier s'y oppose, rawahu muslim. Et mes chers frères, rapidement, dans l'histoire de l'islam, il n'y a jamais eu une époque où notre religion n'a été autant de fois la cible des médias et de tout le monde d'une manière générale. Il y a bien sûr les guerres, hein, ça on ne va pas en parler, mais je voudrais plutôt aborder la problématique des guerres idéologiques et des guerres psychologiques. Depuis une vingtaine d'années, nous n'avons jamais vu dans l'histoire de l'islam autant de remises en cause des croyances de notre religion, remises en cause de nos valeurs, l'unicité d'Allah, notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'avons constaté il y a deux ans, un an et demi, deux ans, à travers l'histoire des caricatures de Mahomet, comment on n'hésite pas à remettre en cause ce qui nous tient le plus à cœur. Remise en cause de l'organisation de la société, l'héritage, les problématiques liées à la femme de l'islam. Jamais l'islam n'a été autant critiqué que ces dernières années, depuis 2000 ou depuis 1990. À travers cela, il y a deux objectifs. Premièrement, faire douter les musulmans dans leur foi. Faire douter les musulmans de leur foi, de leur iman. Ou alors, même si les musulmans ne douteront pas de leur iman, au pire, semer la divergence, le ikhtilaf au sein de la communauté. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, donner une image négative de l'islam dans le monde, mais également et surtout pour les adeptes d'autres religions, afin que les gens voient l'islam, considèrent l'islam comme étant une religion dangereuse. Et ceux qui s'affirment comme étant musulmans deviennent des personnes potentiellement dangereuses, voire marginaux. D'où l'apparition depuis une dizaine d'années d'un nouveau jargon, le terme intégriste, le terme extrémiste, qui n'existait pas il y a 15 ans, qui ont fait leur apparition récemment. Et accessoirement, l'objectif est de décourager les personnes qui souhaitent se convertir à l'islam. Parce qu'il n'y a pas une religion, et ça c'est la qudrat d'Allah, qui accueille autant de personnes que l'islam. Et par quels moyens? Ils essaient d'atteindre leur objectif essentiellement par les médias. TV, la télévision, internet, les journaux, les magazines, qui restent malheureusement la source unique d'information de la majorité des gens. Monsieur tout le monde, il va croire ce qu'il va voir à la télé. Il va croire ce qu'il va lire dans les journaux. Il ne va pas chercher au-delà de ça. Qu'est-ce qui peut être dit? Est-ce que ces dires sont réels ou véridiques? Et très souvent, l'information devient plus désinformation. Les projecteurs sont mis là où on veut bien les mettre. Un exemple en date, un crime islamophobe en Allemagne, il y a à peu près une semaine, où une jeune femme, enceinte de 3 mois, se fait agresser dans un parc public, des insultes à caractère raciste de la part d'une personne. D'accord ? Quel crime a fait cette femme ? Elle faisait jouer son enfant sur une balançoire dans le parc public, mais son crime, c'était de porter le châle. Elle a été victime de cette agression verbale. L'affaire a été portée au tribunal. Vous lisez tous ces journaux. Dans le tribunal, cette personne assassine cette jeune femme musulmane, enceinte de 3 mois, qu'on le rappelle, si je ne me trompe pas, de 18 coups de couteau. Les forces de l'ordre interviennent et tirent une balle dans la jambe du mari, qui a la faciès du parfait arabe, barbu. Ça doit être lui, le terroriste. Automatiquement, ils essaient d'interférer et d'éloigner le mari en pensant que c'est lui le criminel. Et s'il n'y avait pas des sites musulmans sur Internet qui avaient relayé l'information, l'affaire aurait été étouffée. On parle d'un cas marginal, un fou, un détraqué mental. Alors que, mes chers frères, tel crime se serait produit dans d'autres communautés, il y aurait eu une mobilisation générale. Et vous êtes tous d'accord avec moi. Donc, campagne énorme de désinformation visant à affaiblir l'islam. Mais l'islam ne sera jamais affaibli. D'ailleurs, de nos jours, si on analyse le jargon juridique, il y a des termes pour les personnes qui font des actes ou prononcent des propos discriminatoires face à d'autres religions. Le terme antisémite existe. Il y a même une juridiction pour les personnes qui portent atteinte aux personnes homosexuelles. Il y a le terme homophobie. Mais jusqu'à maintenant, sur le plan juridique, le terme islamophobe n'existe pas. Qu'on comprenne bien où est la justice. Alors, dans cette période de désordre, parce que ça c'est un constat, mais les constats vous l'avez déjà fait avant, dans ces moments de fitna, face à ce désordre général, où affirmer son identité de musulman peut devenir préjudiciable, où on doit subir un matraquage médiatique lié à notre pratique ou nos croyances, quelle doit être notre position? Est-ce qu'on peut être fataliste en se disant, de toute façon, c'est des signes de Qiyama, Imam Mehdi va venir? Non, mes chers frères. Le musulman n'observe pas les faits sans agir de manière intelligente. Est-ce qu'on doit adopter un comportement défaitiste et dire, de toute façon, dans cette situation, pratiquer son din est devenu presque impossible. Tant qu'on peut faire le namaz, on va faire le namaz. Non, mes chers frères. Si le prophète, alayhi salatu wassalam, et les sahaba à leur époque avaient réagi comme nous le réagissons, en pensant que le plus important, c'est de rester ferme, de faire namaz, et tout ce qui se dit, on va laisser, ce n'est pas un problème. Alors, mes chers frères, ces sahaba qui n'ont pas été insultés, ils n'ont pas été agressés verbalement, ils ont été frappés, torturés, atteints de leur personne. S'ils avaient adopté cette vision défaitiste des choses, comprenons bien que jamais aujourd'hui, en 2009, nous ne serions musulmans à La Réunion. Quelque chose qui nous est plus proche. Si nos grands-parents, pour ceux qui sont venus de l'Inde, lorsqu'ils étaient arrivés à La Réunion, s'ils avaient adopté cette méthode, ce mode de pensée en se disant qu'on va délaisser notre religion et privilégier l'adaptation, l'intégration et délaisser tout ce qui a trait à notre religion, alors aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler dans cette mosquée. D'accord ? Qu'on comprenne bien, mes chers frères, que nous ne pouvons laisser notre religion critiquer, même si c'est pour quelque chose qui n'est pas obligatoire, même si le miswak est remis en cause, nous devons trouver l'unité pour montrer que nous tenons à notre din. Il faut savoir que le pire est à venir. Car le prophète a dit, فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْ رَبَّكُمْ. Le prophète a dit que viendra une époque, et époque après époque, la situation s'empirera. Les années qui vont venir deviendront de plus en plus difficiles jusqu'à ce que vous rejoigniez votre Dieu, c'est-à-dire jusqu'au Qiyamah. Rawah al-Bukhari. Le hadith d'Abu Darda, radiallahu anhu, a dit, kullu shay, on va dire en français, que toute chose diminuera jusqu'au Qiyamah, sauf le mal. Fa innahu yuzadu fihi. La seule chose qui augmentera jusqu'au Qiyamah, ce sera le mal. D'accord? Et jusqu'à une époque, ça c'est vraiment avant la venue d'Imam Mehdi, celui qui dit, qui affirme son islam, qu'il, la personne était immédiatement exécutée. Donc on comprend bien. Maintenant, quand on sait que la situation risque de s'empirer, notre religion sera de plus en plus visée. Quelle est la réaction intelligente? Et comment rester ferme dans son din? Comment rester ferme dans sa pratique de la religion? Comment transmettre ce patrimoine, ce flambeau de l'islam à nos enfants dans un contexte défavorable, dans ces moments difficiles? En 4 points, on a le temps. Premier point, Inch'Allah, ne pas tenir compte de ce qui se dit, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on veut bien nous faire comprendre. Même si l'humanité tout entière, même si les médias se réunissaient pour faire passer le message que l'islam est une religion archaïque, ou c'est une religion inadaptée, ou injuste dans ses pratiques, il faut savoir que nous ne devons avoir aucun doute sur la justesse et la perfection de notre dîn. Car même les anbiya, alayhimu salatu wa salam, tous les prophètes sans exception, ont été traités de menteurs par leur peuple. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمِ الرَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Chaque prophète qui venait, leur peuple disait, c'est des fous ça, na'ud billah, ou c'est des sorciers. Comprenons bien, est-ce que le fait que ces gens étaient traités de menteurs, ça veut dire qu'ils étaient dans le faux ou que leur discours était inadapté? Qu'on comprenne bien, on ne doit pas se laisser influencer par le mouvement de masse. Lorsque tout le village se réunit pour jeter Ibrahim a.s. dans le feu, est-ce que le fait que d'un côté il y a Ibrahim et de l'autre côté il y a tout un village, ça veut dire qu'Ibrahim était dans le faux? La wallah. Notre croyance, notre yaqin est en Allah, le Coran, la sunna, la promesse d'Allah, le paradis, l'enfer, al-mahshar, et non pas sur ce que les gens peuvent véhiculer. Dans l'exemple des sahaba, Suhayb al-Rumi, radiallahu anhu, il avait perdu tous ses biens pour pouvoir faire la hijra. En apparence, Suhayb a tout perdu aux yeux des gens. Mais pour Allah, il a tout gagné. Ne pas considérer l'apparence des choses. Ce n'est pas parce que nous donnons l'impression d'être affaiblis que notre religion porte des failles. Soumaya et Alu Yasser, radiallahu anhum, ils ont été persécutés, torturés jusqu'à la mort. Aux yeux des gens, ils ont perdu leur vie. Mais aux yeux d'Allah, ils ont remporté la plus grande des victoires. Ne pas se laisser influencer par l'apparence des choses. Rester ferme dans notre dîn, ferme dans nos convictions. Et comprenons bien que ce dunya, ça c'est une sunnah d'Allah. Dans ce bas monde, il y a des gens justes qui dirigent et il y a des gens injustes également qui dirigent. Et ce bas monde n'a aucune valeur pour Allah. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète était critiqué. Allah ta'ala, na'oud billah, les gens disaient des paroles injustes sur notre robe. Que dire de nos jours? Allah laisse les gens dire, les gens parler, mais la justice est dans les mains d'Allah. Mais il faut qu'on comprenne bien que cette justice sera visible et palpable le jour de Qiyamah. Parce que le jour de Qiyamah, il y a un seul Rabb, un seul maître, c'est Maliki Yawmiddin. Hadith d'Ibn Umar, magnifique hadith, dans lequel il dit que le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala pliera les cieux et les terres. Allah Ta'ala dira, je suis le maître, an al-jabbar, je suis le plus fort, l'être supérieur. Aina mulukul ard, où sont les rois de la terre? Où sont ceux qui dirigeaient dans ce monde, comprenons avec injustice? Aina al-mutakabbirun, où sont ces gens qui se considéraient au-dessus de mes lois? Hadith également, lorsque Allah Ta'ala dira le jour de la résurrection, lorsqu'il n'aura plus une vie, limanil mulkul yawm, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Et 3 fois, il n'y aura aucune réponse. Allah Ta'ala dira lillahil wahid al-qahhar. Dire en ce jour, il n'y a plus d'oppresseur. Il n'y a plus d'injustice, tout est dans les mains d'Allah. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Et mes chers frères, c'est pour ce jour que nous avons iman en Allah. C'est pour ce jour que nous faisons la salat. C'est pour ce jour que nous enseignons l'islam à nos enfants. Alors, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier 70 années de sa vie pour l'éternité? Est-ce qu'il n'est pas préférable, de vivre 60 ans, 70 ans, critiqués dans des difficultés, mais s'assurer la protection d'Allah et le contentement d'Allah pour l'éternité depuis le jour du Qiyam? Premier point. Deuxième point, rester ferme dans son din, dans ses croyances, dans ses pratiques, et l'enseigner à nos enfants. Et qu'on comprenne bien, l'enseignement de la religion à nos enfants ne pourra jamais se faire comme il le faut si nous comptons uniquement sur la madrasa. Parce que le discours qui sera fait par le Moulissab n'aura jamais le poids du discours qui sera tenu par le papa et la maman. Le père et la mère ont cette capacité de transmettre les valeurs de l'islam, l'attachement de l'islam, le sentiment de fierté d'appartenir à l'islam avec amour et muhabba, ce qui est intrinsèque, ce qui est réservé uniquement aux parents, ce qu'un moulissam ne pourra jamais le faire. Donc créer cette ambiance de dîn, cet amour, cette fierté d'être musulman dans le cœur de nos enfants, en les enseignant l'amour pour Allah, l'amour pour les prophètes, et en donnant à ces enfants comme repère, comme exemple, l'histoire des prophètes, l'histoire des sahaba, l'histoire des hommes pieux. Parce que si nous délaissons notre rôle de parents et nous laissons l'éducation islamique, nous déléguons ou nous nous en débarrassons plutôt aux mains des moulissables, comprenons bien que si notre enfant passe 5 heures devant Internet, Facebook, Hotmail ou autre chose, 2 heures devant la télé, d'accord, automatiquement, ces valeurs deviendront les valeurs de la société. Et comment voulez-vous qu'il ait un joie de son cœur l'importance des sahaba? Comment voulez-vous qu'il ait un joie de son cœur l'envie d'imiter, de pratiquer la sunna? Et fait inculquer à ses enfants la crainte d'Allah. Un mot important, muraqabatullah, mes chers frères. Ça ne sert à rien d'être ferme dans l'éducation de nos enfants, de frapper s'il le faut nos enfants pour faire la salat, si nous n'avons pas inculqué à nos enfants l'amour et la crainte d'Allah. Oh mon fils, sache qu'Allah il te voit. Quoi que tu fais, quoi que tu dises, Allah te voit et les anges écrivent. Ô mon fils, pour chaque parole prononcée, pour chaque fait et geste, Allah te questionnera le jour du Qiyam. Ô mon enfant, prends l'habitude de demander pardon et istighfar à Allah régulièrement. Mes chers frères, si nous avons su former le iman de nos enfants, cet enfant sera sauvé. À l'âge de l'adolescence, nous n'aurons plus besoin de le suivre. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle heure tu es rentré? Tu étais avec qui? Même s'il va en France, en Europe, quel que soit le pays, pour faire ses études, il n'aura pas besoin de le suivre. Pourquoi? Parce que dans son cœur, le iman est formé. Comme les sahaba. Ils ont eu iman et ensuite, ils ont commencé à pratiquer. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ne pas forcer mon garçon, fais hafez. Fais ton 5 namaz. Fais ça. Mais on n'a pas formé le iman de cet enfant. On n'a pas inculqué l'amour et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention, mes chers frères, surtout ne pas croire que la pratique de l'islam est quelque chose d'héréditaire. Si je suis musulman, mon fils sera musulman, et il mourra musulman, et mes petits-enfants seront musulmans. Il n'y a pas d'assurance dans la chaîne de transmission de iman. Et je vous dis un hadith qui fait peur. Jabir, radiallahu anhu, avait raconté ce hadith en pleurant. Il avait dit, « Inna nasa dakhalu fi dinillahi afwaja, wa sayakhrujuna minhu afwaja. » Les gens sont... Les gens sont entrés dans l'islam en masse. Mais viendra une époque où les gens quitteront l'islam en masse. Qu'Allah nous protège. Personne parmi nous ou parmi nos descendants ont la garantie de rester ferme de leur dîn, surtout avec la pression de la société. Alors mes chers frères, chaque parent doit avoir un souci particulier pour ses enfants et donner du temps à vos enfants. Prenez le temps de les enseigner l'amour d'Allah, l'amour de son prophète, et de mettre dans leur cœur la crainte et la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je vous annoncerai deux bonnes nouvelles après ce hadith qui fait peur. Allah ta'ala dit au Coran, yuriduna an yutfi'u nura Allah bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Même si l'humanité tout entière voulait rabaisser ce dîn, c'est le dîn d'Allah. Ça, c'est le dîn d'Allah.
protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Autre hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que viendra une époque, on appellera les époques de patience. Celui qui reste ferme sur son dîn aura la récompense de 50 parmi les sahaba. Ça veut dire au prophète d'Allah, 50 parmi nous, pour ça, dit oui, 50 parmi vous. Des moments où pratiquer sa religion sera pratiquement impossible. Et le prophète avait dit que celui qui reste ferme dans son dîn à cette époque aura l'équivalent de la hijra, de l'immigration vers moi, Rabah Muslim. Et dernier point, on a dépassé le temps, mais on est en vacances, c'est terminé. Dernier point, mes chers frères, dans les moments de doute et dans les moments où on a besoin de se raccrocher au dîn d'Allah, se souvenir de ce verset qu'on connaît tous par cœur à la fin de Wal Fajri et de cet autre verset à la fin de Waïdul Mutaffifin, des versets faciles qu'on connaît. Kalla, idha dukkatil ardu dakkan dakka. Allah, il met en garde, attention, lorsque la terre sera pulvérisée. Autre verset, Allah t'a dit, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّ. Allah, il met en garde, attention également, lorsque le jour de Qiyama, Allah viendra. Allah Ta'ala, il viendra vers nous pour nous juger. Et c'est Allah seul qui nous jugera en ce jour. Il n'y a plus d'oppresseur, il n'y a plus d'autre courant de pensée. Tout est uniquement dans les mains d'Allah. وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّ. Et les anges descendront. Les anges du premier ciel, deuxième, troisième, jusqu'au septième ciel. Et chaque ange fera un cercle. Et au milieu du cercle, il y aura qui ? La totalité des djinns, la totalité des ins. Toutes les créatures seront encerclées par les anges pour être sûr que personne ne s'échappe, pour que chacun soit jugé par Allah. Dès les moments difficiles, on se met en tête que viendra un jour où Allah me posera des questions sur mon dîn. Et l'honneur viendra au Ahlul Iman. Donc, même si j'ai des difficultés dans ma vie, Allah m'honorera le jour du Qiyama. Et ce dernier hadith, ce dernier verset du Qiyama, ce dernier verset du Coran, Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun, jusqu'à la fin du verset, que les gens, les pécheurs, ils se moquaient des Ahlul Iman. Ils riaient. Ils considéraient ces gens, Inna haoula ila dalun, ils sont dans l'égarement. Mais le jour du Qiyama, Falyaum alladhina amanu min al kuffar yadhakun. La tendance sur un verset, Ahlul Iman, les gens de la foi auront l'honneur de la part d'Allah. Et ce seront eux qui auront la victoire. Et la victoire du Akhirat vaut mieux que l'honneur de ce monde. Qu'Allah t'en donne tawfiq, mes chers frères, de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique. Qu'Allah renforce iman de nos cœurs. Qu'Allah renforce yaqin de nos cœurs. Malgré tout ce qui se dit, qu'on reste ferme sur notre dîn. Et qu'Allah nous donne la mort avec iman. Et nous permet de transmettre ce flambeau de l'islam à nos enfants. Un flambeau vif, éclairant jusqu'au qiyamah nos descendants restent dans la religion d'Allah wa ma tawfiq illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin jazakumullah khair.